Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Tiens, nos pieds. Allez, on y va, les jolies. Allez, 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 allez.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Allez, on y va, les filles. C'est le grand jour de la transhumance. On part dans la montagne, manger de la bonne herbe. Et on a la belle galipette en tête. Doucement là-bas derrière.
Bonjour à tous. Chaque année en France, au beau jour, il et elle sont plus d'un millier, comme Léa, à prendre leur quartier d'été en montagne, le temps d'une estive avec leur troupeau. Il et elle sont bergers, bergères, un métier rude et exigeant, un mode de vie singulier et fascinant, un monde pastoral, universel et ancestral que l'on sait exister là-haut, mais que bien souvent en bas, on connaît peu ou mal. Aller au-delà du pays, c'est le sens même du mot transhumance. Et c'est le voyage que nous vous proposons cette semaine dans les Alpes de Haute-Provence, avec Raphaël Constant parti suivre, au petit matin, les pas d'une bergère, souveraine, à sa manière, dans ses montagnes, entre la vallée du Verdon et de la Vahir. Mais dans ce voyage à 1500 mètres d'altitude, Léa Coelho n'est pas seule. Il y a 300 bêtes, déjà, qu'elle conduit, les chiens, mais aussi d'autres comparses de voyage, bergers et bergères comme elle. Le monde pastoral change, se féminise, dit-on. Mais loin du mythe de la bergère, Léa, comme ses compagnons de route, nous montre la voie. Celui d'un dialogue cohérent, indispensable entre l'homme et son environnement. Transhumance, dans les pas d'une bergère, c'est un reportage de Raphaël Constant.
Allez les belles, allez, allez.
On est entourés de cimes. Il y a des arbres, des résineux tout autour de nous. Et devant, on entend le troupeau.
Donc c'est des montagnes sèches, c'est des montagnes du sud. Nous, on y vit là avec un petit troupeau de mérinos. C'est des brebis et quelques belles chèvres roves. Moi, je les trouve belles parce qu'elles ont des grandes cornes. Voilà, on a ces chèvres-là avec nous aussi au troupeau. On prend cette petite route pour aller jusqu'au petit village de Péresque. Qui a flanc de falaise magnifique pour rejoindre un hameau en ruine où, si le temps nous permet, on passera la nuit avec les brebis là-bas pour qu'on puisse manger un peu d'herbe, du net, comme on dit dans le jargon des bergers, de l'herbe nouvelle. Piano au pied, derrière.
Piano, c'est le chien.
Piano, c'est ma petite border qui travaille avec moi depuis 2015-2016.
En fait, il y a deux gros chiens blancs devant, derrière le troupeau. Trois chiens de berger autour.
On a un patou, Hermès, qui reste bien au troupeau, en fait. Lui.
Les patous, c'est les chiens de garde du troupeau.
Alors, on va plutôt parler de chiens de protection en parlant des patous. Les chiens de garde, ça va être plutôt les chiens de conduite. Ça va être les chiens qui nous aident à mener le troupeau. Et ensuite, on a une bergère d'Anatolie, qui est aussi une race de chiens de protection et qui a un autre comportement. Il tourne autour du troupeau quand on est en garde et il a un espèce de périmètre de 1 km peut-être. Et en fait, il revient toujours au troupeau, mais il va marquer son territoire.
Parce que la crainte du loup, elle est forcément dans la tête, dans les esprits, surtout sur ce territoire des Alpes de Haute-Provence.
Oui, parce que des loups, il y en avait en Italie. Et dans les années 90-2000, il a migré, tout simplement, par les montagnes italiennes. Et nous, là, on n'est pas très loin des montagnes italiennes. Du coup, il y a des meutes installées depuis quand même pas mal de temps. Benaki, viens ici. Allez, derrière. Tu restes derrière. Alors, on compte, en fait, avant de partir, et on pègle les brebis.
C'est-à-dire
On leur fait une peinture, une marque, Culturellement et dans la tradition, on pègle les brebis parce qu'on mélange les troupeaux. Et du coup, pour pouvoir reconnaître facilement ces brebis. Et aussi parce qu'en fait, on peut toujours avoir une brebis qui s'égare quelque part et on saura que c'est la nôtre. On a fait une nouvelle pègle cette année. Une empreinte de patou ou de loup, je sais pas. Pour dire, touche pas à ma brebis, loup.
C'est spécial ce moment pour toi en tant que bergère?
C'est le début d'une saison, quoi. Après, cette année, c'est un peu particulier. Cette année, on se divise la montagne avec une pote.
Une autre bergère?
Ouais, Raphaël. Et on a déjà travaillé toutes les deux en estive. Elle commence la montagne, donc c'est elle qui va rester à la Bryce. Elle va rester là-bas jusqu'à la mi-août. Et moi, je prends le relais ensuite sur l'autre quartier au Chastelard.
Un quartier, ça veut dire une zone de pâturage, c'est ça, d'estive?
Ouais, c'est ça. Il y a plein de jargon dans ce métier. Il y a tout un vocabulaire, j'imagine, dans tous les métiers, quoi.
Léa, pourquoi et quand tu as choisi de devenir bergère?
C'est drôle, j'ai pas vraiment choisi. C'est arrivé à un moment dans ma vie où j'ai 20 ans, je pars faire un essai dans une école de cirque équestre et il faut que je me finance. Je rencontre un gars qui me dit ben ouais, moi je suis allée bosser dans les Alpes-Maritimes avec une asso. Ils embauchent qui veut bosser. Je me suis dit waouh, allez, être bergère, être dehors avec des chiens. Ouais, carrément.
Et ça, c'était il y a combien de temps?
Aïe, ça va dire quel âge j'ai, ça. C'était il y a 17 ans. J'ai été chez 4 éleveurs différents. J'ai bossé pendant un an. Donc j'ai pu voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là sur chaque saison. Parce qu'en fait, on ne vit pas les mêmes choses avec les brebis, qu'elles soient en bergerie, qu'on soit en estive ou à la garde dans des collines. Des très très belles rencontres, comme des rencontres plus bourrues.
Parce que c'est un milieu assez rude.
Ben, tu vois, il y a l'aspect physique, l'aspect d'être dehors, d'être tout seul, d'être à la montagne. Tout ça, ça forge des caractères et des tempéraments, je pense. Il y a aussi les bourrues. Peut-être pas forcément parce que t'es une femme, mais juste parce que t'es pas du métier, ou tu vois, tu viens pas de ce milieu. Et du coup, il y a un truc un peu où il faut faire ses preuves, des fois. Besoin de voir si t'es capable de rester dans la solitude, si t'es capable de voir. Parce qu'en fait, ce métier-là, c'est aussi voir une brebis qui boite, voir une brebis qui est blessée, pouvoir la soigner, pouvoir au moins voir, tu vois, tout ça. Enfin, voilà, il y en a pour qui c'était plus ou moins facile de transmettre leur métier, leur savoir. J'ai vécu pendant quelques années entre la possibilité de continuer à vivre un petit peu avec la création artistique, la danse, le cirque, et me faire des petites estives, du coup, des petits temps de bergère, jusqu'au jour où je suis arrivée dans ces montagnes.
Ici?
Ouais. Donc il y a 3 ans. Et où on fait notre première estive ensemble avec Rafa, qui dure 6 mois. Et voilà, et doucement, je bascule vraiment dans ce milieu-là. Et puis, l'amour est dans les montagnes. Et voilà, quoi.
Et l'amour, c'est donc Steph, l'éleveur du troupeau que tu gardes maintenant?
Ouais, on s'est rencontrés là, dans ces montagnes, quoi. Lui, il gardait là où on est en ce moment, puis nous, on était un peu plus haut. Et on allait chacun avec nos brebis, là, au bout de nos quartiers, pour se rencontrer. Moi, je laissais mes brebis en haut, je les laissais pas, j'avais toujours une vue, bien sûr, sur elles, et j'y étais, quoi. Et lui, il les laissait en bas pour pas qu'on les mélange. On se rencontrait un peu là, puis chacun retournait après à ses moutons, à son troupeau, à sa cabane. Trop bien.
je garde Naïs. Je garde Naïs.
Alors prends-la. Là, on passe un trop bel endroit avec un point de vue. Mais juste, moi j'adore, tu vois, je vis là, mais je m'en lasse pas de cette vue. Donc on a le vallon de la Vaille qui continue sur le vallon de Méaille à Notte, et on a des points de vue sur les montagnes des Alpes-Maritimes.
Il y a le soleil qui est en train de se lever sur la pointe à droite, et la lumière est juste magnifique ce matin.
Ouais, hein. Moi je trouve que aussi des matins sans ciel bleu, ça crée des lumières sacrément belles.
Et à gauche, on est au flanc de la falaise, en fait, au flanc de la montagne. Il y a des fleurs jaunes, violettes, roses, blanches, un peu partout. C'est vraiment le printemps.
Ouais. Il y a du lotier, il y a du genêt, il y a des petits lins. Il y a de la sauge, de l'églantier en fleurs. Et...
Léa, elle est belle cette image-là de Stéphane devant. On voit qu'on grimpe vers la montagne. Les chiens devant, les chiens derrière. Les cloches qui sonnent dans la montagne. Elle est belle cette image.
Ouais. Ouais, et puis il y a Sivan aussi qui est là, son fils à Steph, qui marche trop bien dans la montagne, qui a 10 ans bientôt. Et qui, la transhumance, il se lève le matin à 5h30, qui fait « Wouhou !» Et c'est frais, quoi, ça fait trop du bien. Puis je vois que... C'est là où on voit que Steph, c'est aussi un berger, quoi, qui mène son troupeau. Et le fait que lui, il passe devant, ça roule tout seul, quoi. C'est trop bon.
Culturellement, depuis des siècles et des siècles, il y a des transhumants qui viennent du sud et qui viennent faire paître leurs brebis ici. C'est des bonnes terres à brebis.
Alors Stéphane, raconte-moi, explique-moi, pourquoi on transhume en fait? Pourquoi on monte les brebis en haut de la montagne l'été?
Une partie des systèmes pastoraux fonctionne en suivant l'herbe. C'est-à-dire qu'ils vont donc monter en altitude au fur et à mesure que l'herbe pousse et au fur et à mesure que les printemps sont nouveaux à chaque altitude. Eux, ils montent, jusqu'à ce qu'arrivent à des altitudes comme les nôtres, entre 1500 et 2500 mètres. Puis après, ils vont redescendre. Bon, moi, j'attaque à 1500 mètres. Donc, en fait, ma transhumance commence fin juin, début juillet. Et je prends le même principe. Ben, l'herbe qui était verte et toute fraîche au village il y a un mois, ben, je viens la trouver ici, maintenant. C'est pas forcément plus haut en altitude, mais c'est une exposition différente qui fait qu'on a à nouveau une herbe fraîche et très nourrissante pour les brebis. Donc là, en faisant passer des bêtes sans trop surpâturer, Elle profite, la nature elle profite, parce qu'en même temps au passage elle laisse de quoi fumer le sol, parce qu'en même temps qu'elle mange, elle rejette direct. Donc c'est une utilisation respectueuse du milieu et de ce qui est donné par la nature.
Et ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ça fait 9 ans que je suis éleveur. J'ai fait 3 ans berger avant. Je voulais faire de l'élevage quand j'étais petit et ça arrivait à 40 ans, mais c'était bon. Et ouais, c'est un petit troupeau, à peu près 200 bêtes. Ça me permet de connaître quasiment toutes les bêtes.
Les 200 brebis.
Les 200, ouais. Et d'avoir un lien avec elles. Puis je les connais du début de leur naissance, puisqu'elles naissent à peu près toutes dans la bergerie, et jusqu'à leur mort. Donc voilà, je connais toute leur vie. Donc moi, je garde plutôt à l'automne, après avoir fait les foins et les récoltes de céréales au village. Et voilà, c'est mon petit moment privilégié avec des copines.
Et ce troupeau, cet élevage, il est destiné à quoi?
Alors c'est pour vendre les agneaux pour la viande. C'est des agneaux qui sont vendus à peu près entre 6 et 8 mois. Et je fais des caissettes et je fais de la vente directe. Je suis en bio, par choix idéologique, on va dire ça. La première motivation, c'était quand même d'être en lien avec la nature, de vivre avec et pour aussi un peu la nature, d'être un peu à l'écart de cette société qui mange l'être humain et qui lui bouffe le cerveau, qui l'empêche d'être lui-même. Et en même temps, entretenir ces terres qui ont été longtemps utilisées par les anciens. Quoi.
Et toi, pourquoi tu as fait le choix de confier tes bêtes à une bergère?
Ah, c'est le hasard des rencontres ou le bonheur des rencontres. C'est ouais, il y a de plus en plus de chasses de bergères dans le milieu depuis 10 ans. Il y a une chose, c'est que la condition des bergers, qu'ils soient des hommes ou des femmes, et leur logement, leur statut, s'est amélioré depuis 10-15 ans. Il y a de plus en plus de cabanes de bonne qualité, on va dire, avec du confort, chose qui n'existait pas avant, à cause ou grâce au loup. Il y a même, y compris, des couples qui peuvent venir travailler en montagne. Donc ça a ouvert voilà, les possibilités.
Pourquoi à cause ou grâce au loup?
Pour être indemnisé lorsqu'on a une attaque de loup, il y a 3 mesures qui sont imposées, berger et ou être berger, des chiens de protection et des filets pour les parcs de nuit, électrifiés. À partir du moment où on respecte les mesures T, si on retrouve les bêtes, elles nous sont remboursées. Chaque année, c'est facilement sur le massif, c'est entre 100 et 200 bêtes qui sont tuées par les loups. Donc les bergers et les bergers sont subventionnés. Ça ouvre les possibilités d'embaucher plus de monde pour pouvoir mieux se protéger, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. On sent qu'il y a eu de la vie, qu'il y a eu quelque chose de fort dans cette montagne, de dur aussi. Parce que c'est isolé, parce qu'il n'y a pas d'eau. Je suis tout petit là-dedans, mais ça me donne un sentiment de bien-être, de légèreté et de bonheur. Ouais. Je trouve pas ailleurs.
Les appels, c'est ça?
En fait, elles étaient en train de monter un peu, sortir un peu du sentier.
On peut gourmandiser sur la route, mais on transhume, donc faut avancer.
Piano, viens ici.
En fait, on vient de rentrer dans le biais, dans le chemin à flanc de montagne qui va nous emmener vers la cabane.
Ouais, c'est ça. On appelle ça une draille. La draille, c'est le chemin que créent des bêtes dans la montagne ou dans la colline, enfin voilà. On rentre un peu plus dans la forêt et voilà, on a moins de visibilité. On fait confiance avec ce qui se passe devant et l'idée, c'est de les laisser manger tranquilles. Donc comment être présente au troupeau et en même temps, confiance, je vois pas tout le monde, je suis dans les bois, j'ai l'oreille. Je connais aussi les sonnailles, elles permettent aussi de se faire une idée de sonore du troupeau en fait. Voilà, on marche beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'oreille. Surtout dans des quartiers où il y a du bois. C'est beau, hein, c'est notre manière de garder aussi, hein, c'est super beau.
Donc en tant que bergère, tu es vraiment obligée de t'acclimater, t'accommoder au mode de vie des brebis.
Ouais, complètement, ouais. C'est elle qui décide, tu vois, du rythme. Lever tôt le matin, c'est parti pour être dehors toute la journée, par tous les temps, et des bons grands temps de chaume. Tu vois, tu rentres à la cabane le soir. Les jours les plus longs, il est 10 heures, le temps de faire un peu ta vie à la cabane. Tu vas te coucher entre vers 11h, minuit, et il faut que je sois debout vers 5h du matin, 5-6 heures. Moi, j'ai gardé 2 ans sur les montagnes qui sont au-dessus de nous, là, du coup, les grands travers de pelouse. Ce que je remarque, c'est aussi l'impact qu'on a sur le sauvage, qui n'est pas du tout le même. Donc, il y a 1600 brebis, 9 patous. Poussez-vous les chamois, poussez-vous les marmottes, laissez place aux troupeaux qui débarquent, quoi. Ça fait un peu un effet comme ça.
Tu veux dire qu'un gros troupeau, ça n'a pas le même effet sur la montagne, sur la faune et la flore?
Carrément. Tu vois, je me retrouve vachement plus dans cette forme de pastoralisme et de garde. C'est trop un beau cadeau de pouvoir être au milieu du sauvage comme ça. Sur une terre où l'humain a vraiment mis ses grosses pattes, ses grosses empreintes partout. Et c'est notre forme de voyage à nous. Moi, par exemple, là, je ne vais pas aller garder à la Bryce, mais je vais aller faire les ravitaillements pour Rafa, la bergère. Je vais battre les ânes, les chevaux, et lui ramener ce dont elle a besoin pour elle ou pour les brebis. Du coup, à chaque fois, c'est toujours un petit voyage d'organiser ça. Ou une forme de nomadisme que j'adore. Ouais, que j'adore vraiment. Marcher sur la terre, quoi. Tout simplement, quoi. Et puis même avec un troupeau, il y a des moments de complicité absolument divins, quoi. Où on prend des décisions ensemble, on ne sait plus qui, tu vois, mène qui, en fait.
Par exemple ?
On est dans un endroit ouvert, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de bois, et on pénètre dans un bois, et puis en fait, les brebis, elles ne le sentent pas trop. Moi non plus. Et en fait, j'ai pas besoin d'envoyer le chien pour faire demi-tour. Ben, ces instants-là, c'est inexplicable. On ne sait pas, ok, ça se trouve, il n'y avait rien. Ça se trouve, il y avait des loups. Peut-être ça peut être un corbeau qui s'envole. Des corbeaux dans le secteur, ça n'annonce pas bon présage. Hein. Ils aiment bien se mettre sur des carcasses, par exemple. Pour moi, dans ces moments-là, on a les mêmes degrés d'écoute de nos instincts dans l'environnement dans lequel on est. La nature, elle est hyper expressive.
Oui, donc c'est ça, ce métier, il demande d'être en connivence avec la nature, d'être en perpétuelle observation de la nature, de la connaître, en fait.
C'est ma perception à moi, ouais. C'est là où je prends du plaisir aussi, en fait. Je me sens un peu comme une indienne dans les montagnes, moi. Je crois que je demande rien de plus à cette vie, tu vois, que d'être connectée au vivant. Et pour l'instant, c'est sur ces terres-là de montagne. Et c'est de me sentir vraiment appartenir à cette nature.
Et tout de suite sur RFI, c'est Cuatro Vientos de Danit.
Viento que viene de la montaña, viento tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento tráenos la claridad.
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
T'es bien emmitouflée dans ton duvet, Sylvain ?
Oui.
C'est la première fois que tu suis une transhumance avec ton père et Léa, les brebis.
Papa, j'ai suivi combien de transhumances ?
En vrai, t'en as fait, c'est la troisième.
Il y a 2 ans, on était partis pour emmener les brebis à la cabane. Et du coup, il faut qu'il y en ait qui soient derrière et devant pour mener le troupeau.
Et comment on mène un troupeau ?
Bah, tu les appelles et s'ils viennent pas, t'as le chien.
Tu les appelles comment ?
Vene, vene, vene !
Et comment t'as appris ça ? Comment t'as appris à mener les brebis ?
Ah bah ça, c'est mon papa qui m'a tout appris.
Et t'aimes ça ?
Ouais. Les brebis, elles sont toutes contentes de partir à la montagne. Bon, elles ont pas le sourire comme nous, mais elles veulent nous passer devant pour aller vite. dès qu'il y a de l'herbe. Moi, ça, c'est tout le temps, mais... Je sais pas, elles sont contentes parce qu'elles étaient dans la bergerie, nourries à la paille. Là, c'est de l'herbe bonne, toute fraîche, super bon. Pourquoi elles adorent ça et elles ont hâte de partir en montagne.
Et les brebis, tu les connais bien, toi?
Oui. Je connais leur bêlement. Parce que t'as Anna qui fait... C'est vraiment très grave. D'ailleurs, c'est les apprivoisés qui vont mener le troupeau. Parce que si t'aurais que des pas apprivoisés, elles auraient peur du toit, du coup elles te suivraient pas. Les brebis pas apprivoisées, elles restent avec le groupe. Et vu que le groupe y part, les brebis pas apprivoisées, elles suivent.
C'est super, c'est super. Je trouve que tu racontes super bien les histoires, Sylvane. Je me régale. Auprès du feu, là, c'est un régal de t'entendre. Continue, moi je veux la suite de l'histoire.
C'était en automne, le moment où il y a plein de bébés, les bébés loups, les louveteaux. Il faut qu'ils apprennent à chasser. Ils vont tuer plein de brebis pour s'entraîner. Mais au final, ils vont en manger 2 sur 4. On avait 37 brebis mortes et on n'en a eu que 2,5 mangées.
Et toi, t'as peur du loup?
Non.
Et non, non, hein.
Je trouve qu'il devrait faire comme le lynx qui, lui, quand il attrape une brebis, il en attrape une, il la mange en entière. Non, le loup, il en tue beaucoup, il en mange que quelques-unes.
Et tu sais ce que tu veux faire plus tard déjà?
Acteur, éleveur, enfin berger plutôt, pour les garder dans les montagnes. Ou maçon. Et je fabriquerai des maisons en bois écologique. Je préfère être berger. Mais tu peux les garder, tu peux manger des champignons comestibles. Par exemple, il y a des fraises des bois, des framboises des bois.
Faut bien connaître la montagne quand même, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre?
Qu'un berger mange son chien, sans son chien, ce n'est pas un berger.
T'as vu le temps qu'on parle, toutes les étoiles qui sont arrivées dans le ciel quand on lève la tête?
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'on a, Sylvain, au-dessus de nous?
La grande ours.
Où ça?
Là-bas, les étoiles en forme de casserole.
Bon, on va s'endormir avec cette image alors. La grande ours au-dessus de nos têtes et des brebis à côté de nous. Et les chiens qui dorment à nos pieds.
Ouais.
Assis loin, si proche, avec Raphaël Constant, le voyage continue dans les hauteurs de l'arrière-pays provençal, la tête dans les étoiles. À commencer, qui sait, par l'étoile du berger. Mais la nuit fut courte pour nos comparses en bivouac au Villard, à un mont en ruine situé à mi-parcours de la cabane de la Braïs, où la deuxième bergère, Raphaël, va poser sac à dos et troupeau pendant un mois et demi d'estive. Au petit matin, sentant l'orage, les brebis agitées ont réveillé notre fine équipe qui, à la hâte, a dû remballer le duvet et repartir en transhumance.
Stop, stop, stop! On se détend là. Allez, on va nous attendre.
Alors ce matin, la pluie s'est invitée. C'était pas prévu?
Ouais. Ça va, c'est pas l'orage, mais on va bien se tremper. Et du coup, les brebis, elles sont comme nous, hein, elles aiment pas trop. Donc, il va falloir un peu les stimuler au départ. Là. Les motiver. Choban, au pied. Donc, on va se mettre devant, on va les appeler.
C'est toi qui lances le départ?
Ouais. T'envoies la chaîne derrière déjà? Ok. Venez, au pied. Nice au pied.
Qui file dans le bois et qui nous amène dans le fond du vallon. Là, c'est une drive qui est vraiment pas évidente. Steph, il a réouvert ce chemin il y a 7 ans.
On est vraiment dans la pente en fait de la montagne, dans la forêt.
Ouais, hein, ça descend quand même bien. Ça descend bien dans le pentu là. Comme ça descend bien raide, et ben elles ont. Voilà, elles y vont doucement elles aussi quoi.
On descend.
On descend.
Allez les filles!
La pluie, il y a un truc qui se passe en plus, c'est que les chèvres, c'est des bonnes meneuses normalement. Et elles aiment pas la pluie. Du coup, elles se tankent sous les arbres. Elles ont pas du tout envie d'avancer. Et ça, pour nous, c'est vraiment... Voilà, souvent, elles nous sauvent bien la mise, elles nous font bien passer le troupeau. Et là, on peut pas compter, sur elles. Quoi.
Avançons. À gauche, pas bouger. Stop. Encore. Stop.
Ah, c'est pas bon bouger. Signe. On entend Stéphane qui est en bas dans le goulet. Ça veut dire que les premières ont réussi à être en bas.
Encore. Stop. J'ai dit stop.
Allez, le câble.
Allez, doucement. Faites gaffe aux cailloux, tout ce qui est calcaire, c'est
très glissant. Le grès, non, le calcaire, c'est très glissant. Ouais, moi aussi.
Allez, courage.
Allez.
Comme ça, on
va vite. Viens là.
Presque arrivé là.
Ouais, la cabane elle est en vue là, on peut même dire qu'on est arrivé. On va aller se mettre au sec. Bonne arrivée à nous.
Raphaël, c'est le début de ton aventure.
Alors là, c'est un peu comme le rêve d'enfant là, où on rêve d'aller habiter dans une cabane au fond de la montagne, enfin moi en tout cas, depuis que je suis petite. Alors c'est super excitant de faire ça. Mais c'est pas la bonne clé.
C'est cosy. Ah ouais.
Ah, il fait beau.
Donc là, j'ai tout organisé, mon petit package de nourriture avec un max de petites boîtes en fer blanc. Comme ça, je suis un peu tranquille pour les souris.
Justement, à quoi il faut penser pour passer une estive là-haut?
On peut se passer de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui serait essentiel pour moi, c'est du papier, des crayons aussi, parce que je vais être seule le soir. C'est pas quelque chose qui me dérange, c'est assez choisi. La solitude, ça me plaît. Je pense que je suis dans la connexion avec les éléments. On peut observer la centrale de fabrication de l'orage, les nuages qui se percutent, le tonnerre qui tombe à 3 mètres de nous, tout ça, ça crée des émotions hyper fortes. Et quand on est tout seul, qu'on ne peut pas forcément les partager, ben, y a un moment, on a envie d'écrire tout ça qui est comme un vrai rêve éveillé. Où la vie, c'est maintenant, ici, au présent, avec les animaux.
Et c'est ça qui te séduit?
Ouais. En fait, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Parce qu'il y a une responsabilité des chiens, du troupeau. Il peut y avoir des choses vraiment peu ragoûtantes, parce que dans notre monde... d'antibiotiques, tout ça, de vaccins, on sait plus ce que c'est que vraiment une plaie avec du pu et l'odeur que ça peut avoir et des vers et tout ça. Et en fait, on est face à toutes ces réalités en fait, du vivant. Pas perdre des petits agneaux, être au bon rythme aussi pour que le groupe, le troupeau puisse se suivre sans se perdre. Une brebis qu'on ne peut pas soigner et qui meurt. On est aussi face à ça.
C'est composé avec la vie, mais aussi avec la mort, en fait.
Ouais. Ouais, c'est une réalité qui peut être un peu chamboulante au début. Ça demande une espèce d'adaptation constante, de logique, de réflexion, de bienveillance.
Et ça fait combien de temps que tu gardes, Raphaël ?
Et moi, ça fait 4 ans, donc c'est assez récent dans ma vie. C'est Léa qui m'a formée. Et donc avant, j'ai plutôt une formation assez naturaliste. Un jour, je suis allée la voir à sa cabane. Et elle me dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien connaître plus de choses sur les plantes et les fleurs. » Et moi, je lui dis « Moi, j'aimerais bien être bergère. » Et elle me dit « Bah, ok, un jour, on fait une montagne. » Je lui dis « Ok. »
Ça veut dire quoi, faire une montagne ?
Et ben, ça veut dire partir, faire une vraie saison de bergère en alpage. Donc, on est parti sur un délire vraiment d'échange. C'est un espèce d'échange de petites sorcières. Donc, c'est vraiment ça qui a fait levier. Et je pense que ça fait longtemps que je rêve de faire ça. Mais avant, je ne me sentais pas la carrure, l'autorité de gérer le chien, par exemple. Parce que pour moi, ça représente vraiment quelque chose de se mettre dans une hiérarchie. Ça reste des individus de meute. Du coup, il faut se mettre au-dessus. Du coup, ça, c'était un beau challenge pour moi. De me dire, OK, c'est moi la chef. C'est moi qui mène. Ce qui est délicieux aussi, c'est de pas savoir qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure, demain, maintenant. Je crois que c'est le truc que je préfère dans le métier de bergère.
On arrive devant le parc où chôment les brebis, qui est délimité par des filets. Et on passe par-dessus. C'est ton sac de quoi ?
C'est mon sac de soins. Eh ben, elles dorment tellement bien. Il fait chaud encore. Mais on va quand même regarder le petit agneau qui a une plaie au niveau du ventre et qu'on a marqué tout à l'heure.
Elles sont encore toutes endormies. Elles nous tournent toutes le dos. Elles ont la tête au sol. Elles sont toutes les unes contre les autres. Et après, Raphaël, tu repars garder le troupeau jusqu'au soir.
Et ouais, je pense qu'après, moi, j'y suis jusqu'à à peu près 22 heures. En fait, quand on a vraiment ce moment un peu délicieux avant la nuit, où elle mange tranquillement et on a toujours un petit peu envie de traîner, elle et le berger en général, c'est le moment préféré du berger, tout le monde te dira ça. Et en général, quand même, on s'arrange pour les mettre en parc juste avant qu'il fasse nuit, quoi.
Il est là, l'agneau à attraper, c'est ça, celui qui a la marque verte ?
Ouais. Donc là, Léa, elle va avancer tel un prédateur, discrètement. Donc la technique, c'est d'attraper par une patte arrière. Là, c'est un agneau, donc elle peut le déplacer, mais c'était une grosse brebis. C'est des techniques un peu de judo. Où on leur tourne la tête, on les déséquilibre, elles tombent sur le coccyx, et une fois qu'elles sont assises, elles se laissent manipuler. Quand c'est vraiment des gros béliers, c'est plus difficile, on va plutôt faire du catch.
Même une brebis, ça pèse combien à soulever ?
Ça, c'est pas des très grosses brebis, elles doivent faire 50-60 kilos. Donc ça peut monter, je pense, jusqu'à 80, des grandes brebis.
Ouais.
Alors tu viens de le mettre au sol, l'allonger, il bouge pas, ouais. T'y perds. Et t'as mis ton genou sur son cou.
Ouais, je mets pas de poids dans mon genou, c'est juste pour qu'il se tienne tranquille.
Hop, bah non.
Enfin voilà, faut pas laisser traîner parce que voilà, il y a beaucoup de mouches en fait autour des brebis. Et du coup, ça fait des plaies qui s'infectent. Et...
Qu'est-ce que tu mets là ?
Là, j'ai mis de l'hydrolat de sarriette qu'on fait nous. C'est un très très bon antiviral, antibactérien. Donc voilà, je nettoie la plaie avec ça et ensuite, je vais lui mettre un baume dans lequel il y a de l'huile, de la cire d'abeille, des huiles essentielles. Allez, mon pitchoul.
C'est lui, le petit dont je te parlais, Rafa. Qui est souvent le dernier, là, le 43, là.
Il avait une collerette blanche.
Ouais. Bon, bah, on est bien. Est-ce qu'on essaye de se faire cette session avec Plume ?
Ouais, c'est
avant départ ?
Qu'est-ce que tu veux faire, Raphaël ?
Eh bien, en fait, moi, j'ai un chien qui n'a pas encore travaillé aux brebis. Donc là, on va sortir le troupeau et on va lui proposer un petit exercice de tourner autour pour rester toujours, que moi je sois à midi et qu'elle soit toujours à 6 heures en face de l'autre côté du troupeau. Donc on va voir si elle répond à cette idée-là.
Ok, allez, on va y aller.
Allez, on démarre un peu. Allez, viens là, viens. Ouais.
Carnet de bergère. Pensée d'être humain en colline. Vendredi 13, punaise. Vendredi 13 mars 2015. C'est le deuxième jour que je vois des papillons. En vol de liberté, ils parcourent en un coup d'aile cette nature aride. Je marche pieds nus. Mes chaussures puent et me font mal aux pieds. Mes premières violettes. Petit goût de bonheur. J'ai tenu mon premier discours à mes dodus. Entre poèmes et déclarations d'amour. Elles l'ont bien fait aujourd'hui. Juste le Grand Canyon qui fut un peu dur à franchir. Sans quoi, elles ont pris le bon biais. Belle arrivée au camion caravane. Cher public, nous étions ensemble. La nature, les brebis, les chiens. Mes équilibres tiennent tout seuls. Elles m'applaudissent, je les aime, je les rappelle, elles sont d'accord. Nous rentrons, je laisse faire. Coupe du cad et me fabrique un pic à cheveux. Arrivé à la cabane, il reste encore des braises. Je relance un feu, gamelle, eau, petit bois. D'ailleurs, il pleut ce week-end. Pensez à rentrer du petit bois pour demain matin.
Et ça, tu te souviens où est-ce que tu as écrit ça? 2015, c'était tes premières gardes?
Ouais, je fais du pare-feu dans le Luberon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des pâturages de collines. Il y a des espèces de promontoire en bois pour les chasseurs, pour qu'ils puissent faire des battues aux sangliers, là. Je me mets là-dessus et puis je commence à... Il y a les brebis qui sont en dessous moi. Alors, en fait, je commence à leur faire un discours politique et tout. Enfin, je m'étais tellement marrée, j'étais vraiment, vraiment loin dans ma solitude et dans ma joie d'être présente et ma liberté d'être folle, et c'était trop bien. J'ai rigolé, et puis les brebis, elles me regardaient en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait, la bergère ?»
Bah
C'était trop génial, c'est un de mes plus beaux souvenirs de garde, pour de vrai, cette histoire.
Est-ce qu'à un moment, à force d'être seule, on a un peu l'impression de perdre la tête?
Mais
ou,
oui.
Ou au contraire, on lâche prise, en fait?
Mais oui, parce que c'est vraiment la liberté d'être et de prendre le temps de ressentir et d'être un bon compagnon pour soi. C'est un beau cadeau de s'offrir ça dans une vie avec pour public la faune sauvage, les plantules, les brebis, le soleil, le vent et les aigles. Et le faucon cresserelle, c'est mon préféré.
En fait, c'est bien ce qu'elle fait, la chienne, parce que elle va freiner le troupeau en face. Tu vas revenir en bas avec ta chienne, comme ça on renvoie le troupeau dans cet espace-là. Super. Voilà, super. Là, vous vous posez tranquille toutes les deux. Tranquille, laisse faire. Encore, allez, vas-y. Allez, et en fait, elle se place à midi déjà, parce qu'elle est allée très vite. Encore. Et là, après, à un moment donné, tu décides de caler un arrêt.
Stop.
Super.
Pas bouger.
Reste là-dessus, Rafa.
Ok, ben Naki.
C'était super, là, ce qu'elle t'a fait. Du coup, si tu veux pas trop te faire avoir, tu vas les retourner tranquille, hein, mais tu vois, tu peux aller les rejoindre et les retourner pour aller vers là.
Après, je monte là, tranquille, en zigzagant.
Ouais, tu laisses aller, ça se trouve, tu vas te retrouver au campus du fond du jardin, là-bas, si t'as envie de faire monter un peu. Enfin, voilà, tout ce quartier-là, tu le fais comme t'as envie. Le risque, à la Deschamps, ne les laisse pas trop partir à droite pour pas qu'elles te prennent le biais des montes, où il fait frais après.
Ok, donc je traîne pas. Ciao.
C'est un plaisir, hein. On voit bien ta belle énergie dans ces montagnes, avec ce troupeau, avec ta petite chienne dans cette cabane. Prends bien soin de toi.
Ça va aller, Raph ?
Ça va aller, je traîne pas, hein, parce que comme ça, je me fais pas avoir. Allez, ciao, bonne descente.
Elles sont en train de grimper, là, dans la montagne.
Ouais.
Mais... elles s'éloignent de nous.
Tout doux, t'as vu ?
C'est joli, cette image, de les voir... s'éloigner dans la montagne, ouais.
Ouais. Ouais, c'est chouette. Tout le temps de la transhumance, c'est le temps de reprendre ce rythme. Ça demande de ralentir son propre rythme interne pour pouvoir apprécier, goûter les instants qui se jouent à chaque moment de la journée. On part en voyage, on glane l'herbe qu'on a sur le chemin. Il s'agit d'ouvrir les yeux, de ressentir, d'ouvrir tous ses sens en fait. Et alors là, il s'ouvre vraiment un monde magnifique et dans lequel ouais, il y a possibilité de se sentir réellement libre.
C'est quoi cette liberté là-haut dans la montagne, dans les alpages ?
La liberté de se mouvoir, de prendre son sac à dos tous les jours et de partir au gré du rythme des brebis, d'une nature. C'est parce que les brebis, elles ont besoin de manger que moi, je suis présente dans les montagnes. C'est elles qui me font voyager, en fait. Je mets ma vie en pause un peu pour effectivement être au service du vivant.
Transhumance, dans les pas d'une bergère, c'était un reportage de Raphaël Constant. Merci à Léa, Raphaël, Sivan et Stéphane pour leur accueil et pour le voyage. Merci également à Sylvain Gollet du CERPAM, Centre d'études et de réalisation pastorale Alpes-Méditerranée. Laure Alary, Céline de Vélé-Mazurel et Raphaël Constant, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.